Les aventures de Tom Sawyer, chapitre 26, dans la maison hantée. Le lendemain, vers midi, les deux enfants retournèrent chercher leurs outils. Tom bouillait d'impatience. Il voulait aller voir la maison hantée. Huck, qui n'en avait que modérément envie, demanda. « Dis donc, Tom, quel jour est-ce aujourd'hui ?» Tom compta mentalement les jours de la semaine. Puis il leva sur son compagnon des yeux effarés. « Mince alors, je n'y ai pas pensé. Moi non plus, je n'y avais pas pensé. Et tout d'un coup, il m'est revenu que c'est aujourd'hui vendredi. Il y a des jours de chance, c'est possible. Mais pas vendredi. N'importe quel ballot, c'est ça. Je ne crois pas que tu sois le premier à l'avoir trouvé, Huck. Je ne le prétends pas non plus. Et que ce soit vendredi, ce n'est pas tout. J'ai fait un mauvais rêve cette nuit. J'ai rêvé de rats. Pas possible. Ça, c'est signe d'embêtement. Est-ce qu'ils se battaient ? Non. Ah, bien, ça, c'est bon signe, Huck. Quand ils ne se battent pas, ça veut dire que des embêtements peuvent se produire, qu'il faut se tenir sur ses gardes et ne pas s'en mêler. Laissons tomber pour aujourd'hui et jouons. Huck, connais-tu Robin des Bois ?
Non.
Qui est-ce, Robin des Bois ?
Tu ne sais pas. C'était un des plus grands hommes de l'Angleterre, un des meilleurs. C'était un voleur de grand chemin.
Nom d'un chien ! C'est ça que j'aurais voulu être. À qui s'en prenait-il ?
Uniquement à des gouverneurs, des évêques, des riches, des rois, des gens comme ça. Jamais aux pauvres. Il les aimait. Il partageait toujours avec eux.
Un chic type, quoi.
Et comment ? Le plus chic qui ait jamais existé. Il n'y en a plus comme ça aujourd'hui. C'est moi qui te le dis. Il pouvait terrasser n'importe qui en Angleterre, d'une seule main, l'autre main attachée derrière le dos. Et avec son arc en bois d'if, il transperçait une pièce de 10 cents à plus de 2 kilomètres.
Qu'est-ce que c'est que du bois d'if ?
C'est pas. C'est un bois dont on fait les arcs.
Et si la flèche ne faisait que frôler le bord de la pièce, il en pleurait.
Tiens, jouons à Robin des Bois. C'est un jeu épatant. Je vais t'apprendre.
Ils jouèrent donc à Robin des Bois tout l'après-midi, jetant de temps à autre un regard d'envie vers la maison hantée et passant en revue les possibilités du lendemain. Le soleil baissait, ils reprirent le chemin du retour par les grands bois de Cardiff Hill. Le samedi, au début de l'après-midi, les enfants étaient de retour au pied de l'arbre mort. Ils s'assirent un instant à l'ombre pour bavarder et fumer une pipe. Puis se remirent à approfondir leur dernier trou sans grand espoir. Simplement parce que Tom affirmait qu'en bien des cas, les gens avaient abandonné leurs recherches alors qu'il leur aurait suffi de creuser 20 cm de plus pour arriver au trésor, et qu'alors d'autres l'avaient déterré dès leur premier coup de pelle. Ayant échoué cette fois encore, ils remirent chacun leur outil sur l'épaule et s'en allèrent avec la satisfaction de n'avoir négligé aucune des exigences du métier de chercheur de trésors. Lorsque, sous un soleil de plomb, ils atteignirent la maison hantée, le silence qui y régnait était tellement profond, l'impression de solitude et de désolation qui s'en dégageait était si démoralisante que tout d'abord, ils hésitèrent à s'aventurer à l'intérieur. Peu après, ils s'enhardirent, rampèrent jusqu'à la porte et jetèrent un coup d'œil prudent. Ils virent une pièce sans plancher où les mauvaises herbes avaient poussé à foison. Une vieille cheminée toute délabrée, des fenêtres sans carreaux, un escalier en ruine et pendant de partout d'invraisemblables quantités de toiles d'araignées. Sur la pointe des pieds, en échangeant que de rares chuchotements, les oreilles aux aguets, le cœur palpitant, ils entrèrent, prêts à battre en retraite à la première alerte. Un peu après, leurs craintes se dissipèrent. Ils examinèrent l'endroit en détail, tout fiers de leur courage, dont ils étaient étonnés eux-mêmes. L'idée leur vint ensuite de monter au premier étage. C'était se couper toute possibilité de retraite. Mais, s'étant défiés mutuellement,
ce dont le résultat ne faisait pas de doute, ils jetèrent leurs outils dans un coin et se risquèrent dans l'escalier. Là-haut, le même spectacle les attendait. Dans un angle, une porte donnait accès à un grenier d'apparence mystérieuse, qui était vide. Maintenant, l'assurance leur revenait. Ils se disposaient à redescendre et à commencer leur fouille quand, tout à coup, Tom fit. « Chut ! Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Huck, blême de frayeur. « Chut ! Écoute !»«
Oui, j'entends. Oh, dis donc, si on s'en allait ?»«
Reste tranquille, ne bouge pas. » Les voilà qui reviennent. Ils approchent de la porte. À demi-morts de terreur, les deux enfants s'allongèrent sur le plancher. L'œil collé à un trou, ils attendirent.
Ils s'arrêtent. Non, ils reviennent. Les voilà.
Surtout, ne dis plus rien, Huck.
Ah ! Comme je voudrais être ailleurs.
Deux hommes entrèrent. Chacun des deux enfants pensa. Celui-là, c'est le vieux sourd-muet espagnol, qui, ces jours-ci, est venu en ville une ou deux fois. L'autre, je ne l'ai jamais vu. L'autre était sale, déguenillé, rébarbatif. L'Espagnol était enveloppé dans un grand manteau. Il avait des favoris blancs broussailleux. De longs cheveux s'échappaient de dessous son chapeau. Il portait des lunettes vertes. Quand ils entrèrent, l'autre parlait à voix basse. Ils s'assirent, dos au mur, face à la porte, et l'autre crut alors pouvoir élever la voix. « Non, dit-il, j'ai bien réfléchi. C'est dangereux, ça ne me plaît pas. »«
Dangereux ? » grommela, à la grande surprise des enfants, le prétendu sourd-muet.
« Poule mouillée, va !»
Cette voix, les enfants en tremblaient, était celle de Joe l'Indien. Il y eut un silence, puis Joe dit.
« Qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux là-dedans que dans notre dernière affaire ?»
« Eh bien, il ne nous est rien arrivé. »
Ce n'est pas la même chose. C'était plus haut, sur la rivière, et il n'y avait pas d'autre maison à portée de vue. Personne ne saura que nous avons essayé, puisque nous n'avons pas réussi. Ce qui est plus dangereux, c'est de venir ici en plein jour. N'importe qui, en nous voyant, se doutera de quelque chose.
Je sais, mais après l'autre affaire, il n'y avait pas de meilleur endroit. Je veux quitter cette baraque. Plus tôt on partira, mieux ça vaudra. Je voulais en finir hier, mais il n'y avait pas moyen, avec ces satanés gosses qui jouaient sur la colline, juste en face de nous.
À ces paroles, les satanés gosses tremblèrent. Quelle chance ils avaient eu de se rappeler que c'était vendredi et d'attendre jusqu'au lendemain. Que n'avaient-ils décidé d'attendre un an de plus ?
Les deux hommes sortirent des provisions et se mirent à manger. Après un long silence, Joe l'Indien dit « Dis donc, mon vieux, tu vas remonter la rivière, tu iras là où tu sais et tu y attendras de mes nouvelles. Moi, je vais faire un saut jusqu'au village pour voir ce qui s'y passe. Quand j'aurai fait mon enquête, si je constate que tout va bien, nous expédierons l'affaire et puis après, en route pour le Texas, tous les deux. »
L'autre donna son accord. Les deux hommes se mirent à bâiller.
« Je tombe de sommeil, dit Joe l'Indien. À ton tour de monter la garde. » Il s'allongea sur les herbes qui foisonnaient dans les décombres et ne tarda pas à ronfler. Son camarade le secoua une fois ou deux. Joe ne répondait plus. Le veilleur lui-même commença de deliner de la tête, puis à sommeiller. Bientôt, les deux hommes ronflèrent à l'unisson. Les deux enfants poussèrent un long soupir de soulagement. Tom chuchota.
« C'est le moment, filons. »
« Je ne peux pas, dit Huck, ça me coupe bras et jambes. S'il se réveillait, tu vois le tableau ?»
Tom insista. Huck tint bon.
Tom se leva avec précaution. Il voulait partir seul. Mais, dès son premier pas, le plancher délabré fit entendre un tel craquement qu'il se recoucha par terre, épouvanté.
et se garda bien de renouveler sa tentative. Les enfants restèrent sur place, comptant les instants interminables jusqu'à ce qu'ils eussent l'impression que le temps faisait place à l'éternité et que celle-ci était déjà largement entamée. Ô bonheur, le soleil commençait à baisser. L'un des ronflements cessa. Joe l'Indien s'éveillait. Il s'assit, regarda autour de lui et vit son compagnon qui dormait, la tête dans les genoux. Lui donnant un coup de pied, il s'écria « Hé là, veilleur de malheur, heureusement qu'il n'est rien arrivé !»«
J'ai dormi ? » ?»«
Pas à moitié ! Dis donc, vieux, il est l'heure de partir. Qu'est-ce qu'on fait du magot ?»«
C'est pas.
Pourquoi ne pas le laisser ici, comme nous l'avons déjà fait ? Pas la peine de l'emporter avant que nous partions dans le sud. 650 dollars d'argent, c'est un poids. »
Entendu. Ce n'est pas une affaire de revenir ici.
Non. Cependant, faisons ça la nuit. Ça vaut mieux.
Soit. Mais écoute voir. Avant que je réussisse, ça peut prendre du temps. Et puis, il faut toujours compter avec les accidents possibles.
Laisser le magot là où il est maintenant, ça ne vaut rien. Il faut l'enterrer et profondément.
« Bonne idée !» dit l'autre qui traversa la pièce, s'agenouilla, souleva une des dalles du foyer et sortit un sac dont le contenu tintait agréablement. Il en retira une vingtaine de dollars pour lui et autant pour Joe l'Indien. Puis il passa le sac à ce dernier qui, à genoux dans un coin, creusait avec un poignard. En cet instant, Tom et Huck oublièrent toutes leurs terreurs, tous leurs ennuis. C'est avec un regard de convoitise qu'ils suivaient chaque mouvement des deux hommes. La réalité dépassait leur espoir. 600 dollars ! De quoi les enrichir, eux et une demi-douzaine de camarades. Leur chasse au trésor débutait sous les meilleurs auspices. Maintenant, ils sauraient où creuser. Ils se donnaient des coups de coude sans discontinuer. Des coups de coude qui signifiaient « Eh bien, maintenant, n'es-tu pas content d'être venu ?» Le poignard de Joe rencontra un obstacle. « Oh ! » s'exclama-t-il. « Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»«
Sans doute une planche à moitié pourrie.
Mais non, on dirait une caisse.
Aide-moi, nous allons voir ce que c'est. » »«
Non, ne bouge pas, ce n'est pas la peine. J'ai fait un trou. »
Il plongea la main.
« Tu pèses, mon vieux !»
Les deux hommes examinèrent la poignée de pièces de monnaie que Joe avait retirées.
C'était de l'or. La jubilation des enfants ne connut plus de bornes.
Le camarade de Joe dit « Il ne nous faudra pas longtemps pour savoir à quoi nous en tenir. Il y avait une vieille pioche là, dans les herbes, de l'autre côté de la cheminée. Je l'ai vue tout à l'heure. » Il alla vers le coin et rapporta la pelle et la pioche des enfants. Joe l'Indien prit la pioche, l'examina attentivement, hocha la tête, marmonna quelque chose et se mit au travail. Bientôt la caisse fut déterrée. Elle n'était pas très grande, mais elle était cerclée de fer et avait dû être très solide avant que le travail du temps l'ait détériorée. Muets de joie, les deux hommes contemplaient le trésor. « Sais-tu qu'il y en a là-dedans pour des milliers de dollars ?» fit Joe l'Indien.
On a toujours dit que Merzel et sa bande avaient rôdé par ici pendant tout un été, observa l'autre.
Je sais, dit Joe l'Indien, c'est peut-être d'eux que ça vient.
Maintenant, tu n'auras plus besoin de faire l'autre coup.
Tu ne me connais pas, répliqua le métis en fronçant les sourcils. Ou alors, tu ne sais pas tout.
Ce n'est pas tant un cambriolage qu'une vengeance, ajouta-t-il avec une lueur sinistre dans le regard. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Nous partirons pour le Texas après. Retourne voir ta femme et tes gosses et attends de mes nouvelles.
Comme tu voudras. Qu'est-ce que nous allons faire de tout ça? On le remet en terre?
Oui. Joie délirante au premier étage.
Non, par le grand Sachem, non.
Profonde consternation au premier étage.
J'ai failli oublier. Il y avait de la terre fraîche sur cette pioche.
Terreur folle au premier étage.
Qui a pu apporter ici une pelle et une pioche? pourquoi y a-t-il de la terre fraîche là-dessus? Qui a apporté des outils ici? Où sont ces gens? As-tu entendu quelqu'un? As-tu vu quelqu'un? Enterrer le magot ici pour qu'on vienne et qu'on voie la terre fraîchement remuée? Pas de ça. Nous allons l'emporter dans ma cachette. Évidemment, dire que je n'ai pas pensé à ça plus tôt. Tu veux dire au numéro 1? Non, au numéro 2, sous la croix. L'autre est trop facile à repérer. Nous pouvons y aller. Il commence à faire noir. Joe l'Indien se leva et alla de fenêtre en fenêtre, regardant s'il n'y avait rien de suspect aux alentours. « Je me demande qui a bien pu apporter ici cette pelle et cette pioche, » répéta-t-il. « Crois-tu qu'il soit là-haut ?» Tom et Huck en eurent la respiration coupée. Joe l'Indien avait tiré son poignard. Il hésita un instant, puis se dirigea vers l'escalier. Les deux enfants eurent l'idée de se réfugier dans le Galta, mais leurs forces les avaient abandonnés. Sous les pas du métis, les marches de l'escalier craquèrent. Devant l'imminence du danger, les enfants pensaient malgré tout à se réfugier dans le Galta quand, tout à coup, un craquement formidable se fit entendre. L'escalier s'était effondré et Joe l'Indien était retombé sur le sol au milieu des débris de bois pourris. Il se releva en jurant et son camarade lui dit « À quoi bon tout ça ? S'il y a des gens là-haut, qu'ils y restent. S'ils veulent descendre, ils trouveront à qui parler. Je n'y vois pas d'inconvénient. D'ici un quart d'heure, il fera noir. Et s'ils veulent nous suivre, je leur souhaite du plaisir. À mon idée, ceux qui ont apporté ces outils ici, s'ils nous ont vus, ont dû nous prendre pour des diables ou pour des fantômes. Je parie bien qu'ils courent encore. » Joe commença par bougonner. Puis il se rangea à l'avis de son camarade, qui disait que le peu de jours qui restait devait être consacré aux préparatifs de départ. Quelques minutes plus tard, dans la demi-obscurité, les deux hommes se glissaient hors de la maison et se dirigeaient vers le fleuve avec leurs précieux colis. Alors Tom et Huck, encore tremblants, poussèrent un ouf bien senti. Ils se relevèrent et, par les interstices des poutres de la maison, regardèrent les deux hommes s'éloigner. Les suivre, ils n'y songeaient guère. Ils s'estimaient heureux de se retrouver sur le sol, indemnes, et retournèrent au village par le chemin de la colline. Ils ne disaient rien. Au fond, ils étaient furieux contre eux-mêmes. Ils s'en voulaient d'avoir laissé leurs outils en bas. Sans quoi, Joe l'Indien ne se serait douté de rien. Il aurait enfoui tout son butin sur place, le temps d'assouvir sa vengeance, et, quand il serait revenu, il aurait constaté que le magot s'était envolé. Encore une fois, quelle déveine d'avoir laissé là les outils. Les enfants se promirent de surveiller cet Espagnol lorsqu'il viendrait au village estimer les chances qu'il avait de mener à bien ses sinistres projets et de le prendre ensuite en filature jusqu'à la cachette numéro 2, où qu'elle soit. Tout à coup, une idée terrifiante traversa l'esprit de Tom.
« Dis donc, lui là, avec sa vengeance, ça ne serait pas de nous qu'il voudrait se venger des fois ?»«
Oh, ne dis pas ça !»
murmura Huck, prêt à défaillir. Ils discutèrent la question. En arrivant au village, ils étaient persuadés que les projets de Joe l'Indien devaient concerner quelqu'un d'autre. En tout cas, Tom serait seul en cause, puisque seul Tom avait témoigné au procès. Cette conclusion ne faisait pas du tout l'affaire de Tom, qui, en la circonstance, aurait particulièrement apprécié un peu de compagnie.